Selma Lagerlöf, hors la loi. Un paysan avait assassiné un moine. Il s'enfuit dans les bois et fut mis hors la loi. Il y rencontra un homme, dans le même cas, un pêcheur accusé d'avoir volé une haranguière. Ces deux se mirent à vivre ensemble dans une caverne. Ils dressaient des pièges, taillaient des flèches, faisaient cuire du pain sur les roches polies et veillaient chacun sur la vie de l'autre. Le paysan ne sortait jamais de la forêt, mais le pêcheur, qui n'avait pas commis un crime aussi abominable, prenait quelquefois une charge d'animaux tués sur les épaules et se faufilait parmi les hommes. On lui donnait en échange du lait, du beurre, des vêtements. Ceci rendait la vie possible pour les hors-la-loi. La caverne, qui était leur demeure, était située sur la pente d'une colline. De grosses pierres et des arbustes aux épines rudes en défendaient l'entrée. Au-dessus, il y avait un sapin aux branches épaisses. La fumée de l'âtre s'échappait par une ouverture entre les racines, et tamisée par les branches, elle se dissipait sans être vue. Quand les hommes quittaient leur demeure ou y retournaient, ils avaient pour coutume de marcher au milieu du torrent qui jaillissait au bas de la colline. Personne ne cherchait la trace des bannis dans l'eau joyeuse. On leur avait tout d'abord donné la chasse comme à des bêtes sauvages. Les paysans s'étaient rassemblés comme pour traquer des ours ou des loups. Et plus d'une fois, ils avaient dû fuir en courant, en rusant, en se cachant, l'angoisse leur serrant la gorge. Le pêcheur se nommait Tord. Il n'avait que 16 ans, mais était fort et courageux. Il avait déjà vécu un an dans la forêt. Le paysan s'appelait Berg et on lui avait donné le surnom de Riz. C'était l'homme le plus grand et le plus fort de la contrée et en même temps beau et bien proportionné. Lorsqu'il eut passé quelque temps au milieu de la forêt, son aspect se modifia, devint plus sauvage qu'auparavant. Cependant, le jeune Tord ne pouvait se rassasier de sa vue. Jamais il n'avait connu quelqu'un de plus imposant. Il le servait comme un maître et l'adorait comme un dieu. Il allait de soi que Tord portait la lance, cherchait l'eau et apprêtait le feu. Berglerise acceptait tous ses services, mais ne lui disait presque jamais une parole amicale. Il le méprisait parce qu'il avait volé. Ces hommes des bois ne menaient pas une existence de bandits, ils vivaient de chasse et de pêche. Si la victime de Berglerise n'avait pas été un saint homme, les paysans auraient bientôt cessé de le poursuivre et l'auraient laissé en paix là-haut parmi les monts. Mais ils craignaient de voir de grands malheurs s'abattre sur la contrée si celui qui avait frappé un serviteur de Dieu restait impuni. Quand Tord venait dans la vallée avec sa charge de gibier, on lui offrait et l'impunité et beaucoup de bien, pourvu qu'il leur montrât le chemin de la caverne de Berglerise, de manière qu'ils fussent à même de le saisir pendant qu'il dormait. Oh, l'adolescent s'y refusait avec opiniâtreté. Un jour, Berg lui demanda si les paysans n'essayaient pas de l'inciter à la trahison. Quand il apprit ce qu'ils offraient en récompense, il dit avec mépris que Tord était stupide de ne pas accepter une offre semblable. Alors Tord leva les yeux vers lui avec un regard comme Berglerise n'en avait jamais vu. Jamais une belle fille, jamais sa femme ou ses enfants ne l'avaient ainsi regardé. « Mais tu es mon seigneur, mon maître, librement choisi, » disait le regard. « Sache que tu pourras me battre ou me bafouer tant que tu voudras, je continuerai à t'être fidèle. » Une nuit, quand les tourbillons de neige enveloppaient les cimes des arbres, pénétraient dans les moindres anfractuosités, les névés s'étaient formés jusque dans la caverne. Tante, qui couchait près de l'entrée, était couvert de neige quand il s'éveilla au matin. Quelques jours après, il se sentit malade. Bergrise l'obligea à se coucher, le soigna, bien qu'il lui répugnât de toucher à ce voleur. Tante se rétablit bientôt. Comme Berg avait dû faire son travail et, pour ainsi dire, le servir, un rapprochement s'ensuivit. Tord osa maintenant lui parler quand, le soir venu, ils restaient assis à préparer leurs armes, à tailler le bois des flèches. « Tu es d'une bonne famille, Berg, » dit Tord. « Les hommes les plus riches de la vallée sont tes parents. Tes ancêtres donnaient de grands festins à Noël, et tu en faisais autant quand tu avais ta maison. » De nouveau, Bergrise dut regarder l'adolescent. Son visage était devenu pâle et délicat durant la maladie. La fièvre luisait encore dans ses yeux. Il souriait aux visions qu'un enchantement secret déroulait devant le regard de son âme. Berg ressentit du mécontentement et de la colère. Ce misérable voleur n'avait aucun droit de l'admirer. « N'y eut-il donc aucun festin chez les tiens ?» demanda-t-il enfin. « Là-bas, parmi les îlots de la côte, chez père et mère, » répondit le pêcheur en souriant. « Mon père vit du pillage des épaves, et ma mère est une sorcière. Personne ne voudrait vivre chez nous. On dit que ma mère cherche les doigts et les yeux des enfants noyés. » « C'est mal et vil, » dit Berg. « Mais cela aurait été vil de la part d'une autre, non d'une sorcière, elle y était forcée. » Bergrise jugea que c'était une manière nouvelle de considérer le monde et les choses. « Mais est-ce qu'un voleur est obligé de voler, de même qu'une sorcière a pratiqué des maléfices ?» demanda-t-il. « Oui, il l'est, » répondit l'adolescent. « Chacun est tenu de faire ce à quoi il est destiné. » Mais il ajouta avec un sourire malicieux, « Oui, mais il y a aussi des voleurs qui n'ont jamais volé. »« Dis franchement ce que tu entends par là, » fit Berg. L'autre gardait son sourire, fier d'être une énigme indéchiffrable. « Parler de voleurs qui ne volent pas, c'est comme si on parlait d'oiseaux sans ailes. » Bergrise se montra bête pour apprendre davantage. « Mais personne ne peut être appelé voleur s'il n'a pas volé, » dit-il. « Mais oui, » fit l'adolescent, il pinça les lèvres comme pour enfermer les paroles. « S'il avait, mettons, un père qui volait, » hasarda-t-il peu après. « On hérite d'une maison ou de biens, » répondit Bergrise, « mais nul ne porte le nom de voleur, s'il n'a pas lui-même mérité. » Thor souriait doucement. « Mais si on avait une mère qui vous implorait de prendre sur vous le crime du père, et s'il leurrait le bourreau en s'enfuyant dans les bois, et si quelqu'un dans ces bois fut mis dans la loi à cause d'un filet de pêche qu'il n'avait jamais vu. » Bergrise frappa de son poing la table de pierre. Il était en colère. Voilà donc ce beau jeune homme qui avait gaspillé sa vie. Après cela, il ne pouvait plus gagner ni affection, ni bien, ni réputation parmi les hommes. Il y avait, sur une des hautes et larges montagnes couvertes de forêts, un sombre lac dans lequel les deux hommes venaient pêcher. C'était un jour de grand soleil. La pêche fut médiocre. Il restait assis sur le bord, doucement grisé par la lumière entre les branches vertes. Leurs pensées étaient lentes et ils rêvaient. Quand, soudain, ils entendirent des coups d'aviron parmi les roseaux. Ils sursautèrent comme tirés d'un sommeil. Peu après, une barque vint glissant, lourde, creusée dans un tronc d'arbre, sans art aucun, moussu et fendillé. Une jeune fille, qui venait de cueillir des nénuphars, ramait. Elle avait des cheveux bruns en deux grandes tresses et deux grands yeux sombres. Elle était très pâle. Elle passait auprès des deux hommes sans les voir. Après son passage, ils se regardèrent en souriant. « Elle était blanche comme les nénuphars, » dit l'un. Elle avait le regard profond et sombre comme l'eau là-bas, entre les racines des sapins. Ils étaient si troublés qu'une envie de rire, comme jamais on avait ri auprès de ce lac de la forêt, s'empara d'eux. De rire jusqu'à secouer de l'écho les flancs des monts et arracher l'effroi des racines des sapins. « La trouvais-tu belle ?» demanda Mère Grise. « Bon, je sais pas, je l'ai si peu vue, mais je le pense. »« Sans doute tu n'osais pas la regarder. Tu croyais voir la dame de la mer. » Et de nouveau, ils furent saisis par la même gaieté irréfléchie. Cette figure de femme, entrevue derrière les roseaux, revenait souvent par la suite dans les rêves de Tord. Il la rencontrait au fond des eaux où la lumière pénétrait avec de vertes splendeurs, et il avait maintenant tout le loisir de voir qu'elle était belle. Il rêvait qu'il s'était accroché à la grosse racine au milieu du sombre lac, que le sapin cédait jusqu'à ce qu'il fût presque submergé. Alors elle se montra sur les petits îlots. Elle se tenait sous les rouges sorbiers et souriait vers lui. Dans sa dernière vision, il arriva qu'elle l'embrassa. C'était vers le matin. Il entendit que Mère Grise venait de se lever, mais il fermait avec obstination les yeux pour continuer son rêve. Dans la soirée, l'idée lui vint de demander à Mère Grise s'il savait son nom. « Il vaut mieux te le dire de suite, » fit celui-ci. « C'est une. Nous sommes parents. » Alors Tord sut que c'était à cause de cette jeune fille que Mère Grise était en hors-la-loi. Tant par bois et le mont, il chercha à se remémorer ce qu'il savait d'elle. Une était la fille d'un riche paysan. Sa mère était morte et elle gouvernait la maison de son père. Une et Berg Riz étaient cousins et on racontait depuis longtemps que Berg aimait mieux rester à présenter avec elle, une et ses servantes, que de travailler dans sa propriété à lui. Quand on vint le grand festin de Noël chez Berg, sa femme avait invité un moine de Draxmark, car elle voulait que celui-ci fît des représentations à Berg qui la négligeait pour une autre femme. Ce moine n'était aimé ni de Berg ni de beaucoup d'autres parce qu'il était très gros et trop blanc. Devant tous les invités réunis à table, ce moine, qui n'avait pas peur et qui jugeait que ses paroles auraient d'autant plus beau effet si beaucoup les entendaient, parla ainsi. On a coutume de dire que le coucou est le dernier des oiseaux, parce qu'il n'élève pas ses petits dans son propre nid. Voici un homme qui ne prend soin ni de son foyer ni de ses enfants, mais qui cherche sa voie auprès d'une femme étrangère. Bon, je voudrais le nommer le dernier des hommes. Une se leva à ces paroles. « Ceci a été dit pour toi et pour moi, Berg, » fit-elle. « Jamais je n'ai été pareillement insultée. Il est vrai que mon père n'est pas présent à ce festin. » Comme elle allait partir, Berg la suivit. « Ne fais pas un pas, » lui dit-elle. « Je ne veux plus jamais te voir. » Il la rejoignit dans l'antichambre et lui demanda ce qu'il devait faire pour la faire rester. Elle répondit, une flamme dans les yeux, qu'il devait bien le savoir lui-même. Alors Berg rentra et tua le moine. Les pensées silencieuses de Berg et de Tord suivaient apparemment les mêmes sentiers, car au bout de peu de temps, Berg murmura « Mais si tu avais vu une, quand le moine blanc était à terre, La ménagère rassemblait autour d'elle ses petits-enfants et la maudissait. Elle tournait le visage vers elle afin qu'ils puissent reconnaître pour l'éternité celle qui avait rendu leur père assassin. Mais une restait tranquille, debout, si belle que les hommes tremblaient. Elle me remercia de l'acte et m'exhorta à aller de suite dans la forêt. Elle m'enjoignit de ne jamais piller, de ne jamais tirer à nouveau le couteau, à moins que ce ne fût pour une cause aussi juste. « Ah, ton acte l'avait rendue grande, » dit Thord. Encore une fois, Bergris se trouva devant l'énigme. Cet adolescent était comme un païen, mais pire qu'un païen. Il ne condamnait jamais une mauvaise action. Il ne connaissait pas la responsabilité. Ce qui devait arriver, arrivait. Dieu, le Christ et les saints, oh, ils les connaissaient, mais de nom seulement, comme on connaît les dieux d'un pays lointain. Bergris a entrepris un travail périlleux. Devant les yeux de cet adolescent juste, il montra le Dieu infini, le Dieu des justes, le vengeur, qui précipite dans un lieu d'éternelle souffrance les serviteurs du mal. Il lui enseigna tout ce que font les hommes pour apaiser la colère divine. Thord avait peur quand il se sentait seul dans la sombre solitude des forêts. Il aimait la mer illimitée, les îlots dénudés. Et parmi les arbres, les ombres et les esprits se glissaient. Il lui arriva bientôt de comprendre qui régnait et lui parlait dans les bois. C'était Dieu, le Dieu des vengeances et de la justice. C'était lui qui le poursuivait à cause de son compagnon. Et il exigeait qu'il livrât à sa vengeance l'assassin du moine. Ne bravait-il pas le maître du monde? Cependant, l'assassin vivait. Celui-ci se réjouissait de l'éclat du soleil et des fruits de la terre, comme si le bras du Tout-Puissant ne pouvait l'atteindre. Thord s'était arrêté, menaçant de ses poings levés. L'instant après, il se mit à courir, tel un insensé, hors de la forêt, hors du royaume de l'effroi, en bas vers la vallée. Il n'eut qu'à dire ce qui ramenait, et 10 paysans s'apprêtèrent à le suivre. On décida que le pêcheur retournerait seul à la caverne pour ne pas éveiller les soupçons de Berg. Il éparpillerait le long de la route des pois qui guideraient les paysans. Quand il arriva, son compagnon était assis sur le banc de pierre en train de coudre. Son cœur se gonfla de miséricorde. Le fier Bergris était pauvre et malheureux. Et la seule chose qu'il posséda, la vie, allait maintenant lui être ôtée. Thord se mit à pleurer. « Qu'y a-t-il ? » demanda Berg. « Es-tu malade ? As-tu peur ?» Pour la première fois, il lui parla de ses craintes. « Une terreur règne dans la forêt. J'ai entendu des fantômes parler, des revenants. J'ai vu des moines blancs. » Dieu, enfer, gamin ! Bon, des moines blancs, blancs, pâles comme des cadavres. Tous ont du sang sur leur manteau. Ils enfoncent la coiffure sur leur front, mais la blessure se voit quand même. La grande blessure rouge et béante du coup de hache. Est-ce moi qui l'ai donnée, mais pourquoi faut-il que je la voie? Mais les saints seuls savent, Thord, dit Berg, bas et grave. Pourquoi tu vois cela? J'ai tué ce moine d'un coup de couteau. Thord trembla et il tordit ses mains en disant « Ils me demandent ta vie. Ils veulent que je te trahisse. » « Qui, les moines ? » ?»« Eux-mêmes, oui, les moines. Ils me font voir des visions. Ils me la montrent, elle, une. Ils me font voir la nuée qui brille et étincelle de soleil. Ils me montrent les villages des pêcheurs où l'on danse et s'amuse. » Je ferme les yeux, mais je vois quand même. Laissez-moi en paix, leur dis-je, mon ami a assassiné, mais il n'est pas méchant. Et que répondent les moines? Ils ne désirent pas mon salut, ils veulent me voir torturé et brûlé. Je leur demande si je dois trahir mon plus cher ami, continua Tord. Berg regarda le visage de Tord comme pour sonder sa pensée. Tu dois aller voir un prêtre et lui raconter la vérité, dit-il. Il te faut de nouveau fréquenter les hommes. Mais cela ne peut être d'aucun secours puisque je dois aller seul. L'assassin posa sa main sur sa tête et le regarda. Malheur à moi qui ai fait ce que j'ai fait, soupira-t-il. Mais Thor se leva d'un bond, affolé de peur. Mais peux-tu avoir des remords? Cria-t-il. Mes paroles ont pu te toucher au cœur? Viens, viens vite, je n'aurais pas pu le croire, viens, et fuyons, il est encore temps. Bergeris se dressa aussitôt. Ah oui, tu l'as donc fait. Oui, 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 je t'ai trahi. Mais viens seulement, à présent que tu as des remords, nous leur échapperons. L'assassin se pencha vers le sol, où à ses pieds gisait sa hache de combat. « Fils de voleur, dit-il, j'ai cru en toi, et j'ai eu de l'affection pour toi. » Mais quand Tord vit qu'il voulait saisir la hache, il sut que maintenant la vie allait lui être ôtée. Il arracha sa propre hache de la ceinture et frappa Berg avant que celui-ci se fût redressé. Le fer trancha dans l'air, pénétra dans le crâne penché. Les paysans arrivaient en courant. Ils furent joyeux et louèrent l'exploit. « Maintenant, ton affaire est bonne, » dirent-ils à Tord. Tord regardait ses mains comme s'il sentait les chaînes par lesquelles il avait été entraîné à tuer celui qu'il aimait. Et il dit très haut, « Dieu est grand !» Cependant, ses idées anciennes s'emparèrent de lui à nouveau. Il s'agenouilla à côté du cadavre et passa son bras sous la tête. « Il ne faut pas lui faire de mal, » dit-il. « Il est repentant, il doit aller au Saint-Tombeau. Il n'est pas mort, mais vous ne devez pas l'enchaîner. Nous étions sur le point de partir quand il tomba. » Le moine blanc ne voulait pas qu'il eût dû repentir, mais Dieu, le Dieu juste, aime le repentir. Il resta à côté du cadavre, lui parlant en pleurant et implorant la mort de s'éveiller. Quand les paysans le soulevèrent, il dit d'une voix tremblante de sanglots, « Dites à une qui rendit Bergeris assassin, qu'il fut tué par le pêcheur Thor, dont le père est un pilleur d'épaves et dont la mère est une sorcière, qu'il fut tué par lui parce qu'il lui avait appris que l'assise de ce monde se nomme justice. »